toujours avec vous. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe de l'heure du crime, Perrine Suquet, Margot Agnès. Aujourd'hui c'est Philippe Duval qui est aux manettes techniques de notre émission. Et à la une, on en parlait il y a quelques instants avant le flash avec Christelle Rebière et Vincent Parisot, la véritable histoire de celle qu'on a appelée la séquestrée de Poitiers, une femme de 52 ans, retrouvée à la suite de la réception d'une lettre anonyme par le procureur général de Poitiers, au deuxième étage d'un immeuble bourgeois, d'une maison particulière, d'un hôtel particulier. On trouve cette femme squelettique, 25 kilos, sur un grabat, elle est nue, elle a des cheveux démesurément longs, des ongles également, elle gît sur de la vermine, il y a des insectes partout dans la chambre, une odeur épouvantable. Évidemment, les policiers qui pénètrent dans cette chambre n'oublieront jamais cette scène d'horreur. Et puis la presse qui s'empare de l'affaire, qui publie la photo de cette femme décharnée. La France est indignée, bouleversée. On va l'appeler la séquestrée de Poitiers, peut-être aussi à cause d'André Gide, qui en 1930 va publier un livre, dans le premier d'ailleurs, d'une collection consacrée aux affaires criminelles, sous le titre donc La séquestrée de Poitiers. Eh bien, je vous dis tout de suite, évidemment que ce que je viens de vous dire n'est pas faux, mais que l'histoire qu'on va vous raconter maintenant est beaucoup plus complexe, moins simple que celle qui a été racontée. Et on va en parler avec mon invité Jean-Marie Augustin. Bonjour.
Bonjour.
Et merci. Alors, monsieur le professeur, vous êtes historien du droit, professeur émérite de l'Université de Poitiers. Vous avez été aussi professeur d'histoire des institutions. Oui. Je le dis à dessein parce que vous aviez des étudiants à qui vous proposiez de réfléchir à cette affaire particulière. Et vous avez consacré un livre en fait au centenaire de l'affaire,
hein, oui,
en 2001.
Oui, c'est ça, exactement.
L'histoire véridique de la séquestrée de Poitiers qui est parue chez Fayard. Qu'est-ce qu'on peut dire en deux mots avant d'entrer évidemment dans le détail du dossier que vous avez entièrement revisité, dossier évidemment d'instruction, mais également les procès. Hein, on en parlera beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots pour faire comprendre à ceux qui nous écoutent que c'est pas tout à fait l'histoire qu'on a racontée depuis 1901?
Oui, d'abord le titre La séquestrée de Poitiers. Or, il s'avère au moment du procès, la qualification pénale d'abord ne peut pas être la séquestration, et on va donc évoquer aussi, du reste dans la presse, la réclusion plutôt que la séquestration. Et au moment de la qualification pénale par la chambre d'accusation, on parlera de violence et voie de fait commise par omission, ce qui est du reste un petit peu étonnant qu'une abstention pour l'époque où il n'existe pas la non-assistance à personne en danger.
Alors, qui ne date
que d'une loi de 1941. Ouais. C'est une loi de Vichy qui a créé la non-assistance à personne en danger, qui ensuite a été reprise par une ordonnance de 45, donc qui a une énorme application aujourd'hui, ouais, mais qui n'existe pas. Car dans le code pénal de 1810, pour qu'il y ait infraction, délit, crime, il faut qu'il y ait un acte volontaire, il faut qu'il y ait un acte de commission,
une violence,
ou des injures, il faut qu'il y ait quelque chose de matériel. Ouais.
Voilà. Et c'est pour ça que quand vous étiez professeur d'histoire des institutions, vous preniez cette affaire en exemple pour vos étudiants.
Ah oui, mais c'est en droit pénal, mes collègues de droit pénal, c'est la même chose, c'est tout l'enseignement sur ce qu'on appelle l'infraction de commission par omission, c'est-à-dire, est-ce qu'une omission, une abstention, le fait de ne rien faire, ici, bon, le frère qui l'a laissé sans soin, est-ce que ça peut être l'équivalent d'un véritable délit ou d'un véritable crime? Aujourd'hui, oui, mais pas à l'époque.
Il faut que je remercie une auditrice de l'heure du crime. C'est que les auditeurs peuvent s'adresser à nous par l'intermédiaire d'Internet, proposer de mettre à la une de l'émission telle ou telle affaire parce qu'elle les a particulièrement frappés. Donc, merci à Dominique, c'est une étudiante qui avait découvert récemment cette affaire qui a évidemment défrayé la chronique à Poitiers. Elle dit c'est vrai que ça engendre engendré à l'époque des polémiques énormes sur lesquelles on va revenir, mm-hmm. qui ont dérivé sur le côté politique.
Il y a tout un aspect politique.
Mais elle dit en fait la clé de l'affaire, est-ce que c'est pas de savoir si Blanche Monnier, donc cette femme qu'on découvre squelettique, est-ce qu'elle était folle au départ ou est-ce qu'elle a été rendue folle par sa mère et par cette séquestration. Donc vous répondez clairement, séquestration, non, il n'y en a pas. Pourquoi ? Mais simplement parce que la porte était ouverte.
Exactement.
De la chambre.
Exactement. Elle pouvait circuler librement dans la maison. On évitait qu'elle sorte parce que elle se comportait de manière tout à fait scandaleuse. Un jour, elle est sortie, on l'a rattrapée dans une rue où elle était exhibitionniste. Si les persiennes aussi étaient cadenassées à sa fenêtre de chambre.
On l'avait vue nue à la fenêtre.
Il y avait un cabaret. Ouais. Poitiers est une ville de garnison à l'époque. Elle est toujours du reste.
Mais cela dit, on ne va pas transformer non plus la victime en accusée.
Non, il y a un événement terrible quand même. Non, c'est un événement terrible, surtout dans une famille bourgeoise. Le père était doyen de la faculté des lettres, la mère était la fille d'un agent de change. Ce n'est pas la bourgeoisie telle qu'on peut cela représenter, puisque ils ne sortent pas, c'est pas le bal de la préfecture, c'est pas les soirées mondaines, c'est pas du tout ça. Ce sont des gens qui vivent vraiment de manière recluse eux-mêmes. Et alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est le goût pour la saleté. Ouais. Ils vivent absolument dans une saleté permanente. La mère s'habille de manière très négligée. Il ne se lave presque jamais. Le frère, qui vit de manière indépendante puisqu'il est marié,
qu'il a une fille, vit dans une maison à côté.
Ah oui, on est dans le même lieu. Hein. Ouais. La prison même est tout près. Ouais. Et ils vivent véritablement dans la saleté, avec des goûts coprophiles, même, c'est-à-dire un attrait pour les excréments. Il n'a aucun odorat. Donc, il faut qu'il ait, pour qu'il se rende bien compte, il faut qu'il y ait des fortes odeurs. Et il aime ça. Ouais. Hein, voilà.
Donc c'est déjà un tableau très, très particulier.
Oui, très, très particulier.
Alors, on va revenir tout à l'heure très longuement sur l'origine de cette famille. Évidemment, tout ce qui s'est passé dans la jeunesse de Blanche, parce que la question que tout le monde se pose, est-ce qu'elle était folle très tôt ? Non. Alors, pourquoi est-elle devenue ? On va essayer de répondre à cette question. Mais d'abord, après une première pause, on va revenir sur cette journée du 23 mai 1901, bien sûr. Et on va revenir, d'ailleurs, au tout départ de l'affaire, c'est l'arrivée de cette lettre anonyme, enfin pas si anonyme que ça, puisqu'on sait parfaitement bien, avec le recul du temps, qu'il avait été écrite. Voilà.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Et l'invité de l'heure du crime aujourd'hui, pour satisfaire la curiosité de ses auditeurs d'ailleurs, parce que je vous ai cité le petit message de Dominique tout à l'heure, mais il y a eu beaucoup d'autres messages sur rtl.fr, parce que l'affaire évidemment est un des grands faits divers de l'histoire criminelle. On ne peut pas s'empêcher d'ajouter tout de suite l'adjectif. Et pour répondre à cela, Jean-Marie Augustin, donc historien du droit, professeur, qui a vraiment pris, va nous l'expliquer, le dossier, mais pièce après pièce, pour savoir exactement qu'est-ce qu'on a constaté, qu'est-ce qui s'est dit, comment sont déroulés les interrogatoires, et puis surtout aussi, qu'est-ce qui s'est passé au cours de deux procès successifs en correctionnel, pas en cours d'assises.
Oui, exactement.
Et avec un acquittement à la fin de l'histoire pour le frère de celle qu'on va appeler par facilité la séquestrée de Poitiers. Il est acquitté au deuxième procès. Sa mère est morte en prison, Madame Monnier. Et tout commence, et on va reprendre cette journée du 23 mai 1901, tout commence par l'arrivée d'un commissaire de police au 21 rue de la Visitation, puisque c'est là qu'habite cette famille à Poitiers. Pourquoi ce commissaire est là ? Parce que quelques jours auparavant, le procureur général a reçu une lettre. Vous la citez, cette lettre, dans votre livre. J'en lis le début. « Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous dénoncer un fait d'une exceptionnelle gravité. Il s'agit d'une demoiselle qui est enfermée chez Madame Monnier, privée d'une partie de nourriture, vivant sur un grabat infect depuis 25 ans. En un mot, dans sa pourriture. Mmh. Et donc là, le procureur est obligé d'agir.
Oui, il ne peut pas laisser cette affaire, même si c'est dans une famille de notables. D'autant qu'il y a aussi des bruits quand même autour. Il y a les voisins qui ont parlé, les bonnes aussi. On a entendu des cris, il y a des rumeurs aussi qui courent dans la ville. Par conséquent...
Il y a ces volets fermés devant les
villes. Oui, en plus, il y a ces volets fermés. Et donc, il faut agir. Il y a une perquisition par le commissaire Bucheton. Et là, il découvre carrément une scène d'horreur que vous avez expliquée tout à l'heure. Une odeur pestilentielle. Une femme réduite donc à l'état de squelette. Des insectes qui grouillent un peu partout. La vermine... les excréments aussi, une véritable croûte d'excréments vieux et frais, c'est vraiment abominable.
Et puis alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé encore, il y a sur les murs, on devine des inscriptions. Alors, je dis on devine parce que on va découper soigneusement le papier peint.
Malheureusement, elles ont été perdues.
Mais à l'époque, pour le procès, donc on avait, et même le juge avait fait démonter le chambranle de la porte et la porte pour qu'on se rende bien compte de que ce ne soit pas détruit par la suite. Alors ces inscriptions, on en reparlera tout à l'heure parce que on a nettoyé cette couche de vermine effectivement qui recouvrait également ces inscriptions et on a découvert un certain nombre de messages signés de Blanche Monnier.
Bon,
alors il y a ça. Évidemment, le commissaire en réfère immédiatement au procureur, au juge, et on va interpeller. C'est notable.
On interpelle la mère et le frère. La mère qui... D'ailleurs, il y a une unité de lieu dans cette affaire, parce que la prison est juste en face aussi. Pour les Poitevins, c'est l'emplacement de la poste. On a une unité de lieu, donc on va incarcérer la mère. On incarcère aussi le frère. Le frère, tout de même aussi, il faut signaler qu'il avait été sous-préfet au temps de l'ordre moral. C'est-à-dire en 1877, à une époque où la droite nationaliste et royaliste est au pouvoir.
Ce sont ses idées.
Voilà, ce sont ses idées, encore que... Bon, tout ça est bien loin tout de même. Il est rentier tout simplement. Il s'occupe de peinture et de un petit peu de littérature. Voilà. Donc.
Mais alors, moi, ce qui m'a frappé dans le récit que vous faites de cette journée, Jean-Marie Augustin, c'est que d'abord le commissaire essaye de parler à Madame Monnier, qui l'envoie sur les
carrément,
par intermédiaire de la domestique, en disant écoutez, allez voir en face mon fils. Il va voir le fils. Le fils tout de suite se met sur la défensive.
Exactement.
Quand même, il connaît parfaitement l'état de sa sœur, mais il dit moi, je suis un bon fils, je respecte les décisions de ma mère et je suis indépendant. Voilà, je ne vis pas là.
Voilà,
ça se passe chez ma mère au deuxième étage.
Bon.
Et elle va dire, j'ai pas la phrase sous les yeux, mais elle m'a frappé quand j'ai lu le livre, elle dit quelque chose dans le genre, tout ça pour ça, quoi.
Oui.
Elle
ne se rend pas compte. Je crois que c'est ça aussi. Je pense que c'est une famille qui a un problème avec cette fille, mais ils ne se rendent pas compte. Elle a même l'impression de s'en occuper, je dirais de s'en occuper par l'intermédiaire des bonnes aussi. Elle ne s'en occupe pas directement. Du reste, elle ne va jamais voir sa fille, ou presque pas. Ouais. Elle s'occupe... mais par procuration en quelque sorte, par la matière, c'est les bonnes. Alors il y a eu une bonne effectivement qui en est bien occupée jusqu'en 1896.
Celle qui est morte.
La veuve Fazi, jusqu'à sa mort. Et après c'est du grand n'importe quoi. Ce sont des jeunes filles qui sont mal payées, qui sont dans une situation très délicate, parce que bon, vivre aussi au contact de cette famille qui
elles vont porter à manger. Début, elles doivent faire le ménage, mais
il n'y a pas que le ménage.
Elles doivent laver.
Il faut la laver, il faut la changer comme un enfant, parce que des expressions que je peux donner aussi, elle fait sous elle, quoi, tout simplement. Il faut s'en occuper en permanence, et elles sont mal payées, maltraitées malgré tout aussi. Elles font un peu ce qu'elles veulent aussi quand même.
Alors on peut se demander à ce stade de la découverte de l'histoire, je pense à ceux qui nous écoutent, pourquoi ces gens n'ont pas mis cette jeune fille d'abord, puis cette femme, parce que là elle a 52 ans quand on la découvre. Quoi. Ça fait effectivement quand même 25 ans qu'elle est dans cette chambre.
Ça ne se fait pas dans une famille de notable, quand on a un problème, on le règle soi-même.
Et on ferme les volets.
Voilà, et on ferme les volets s'il faut. quand même, le fils voudrait qu'on la mette dans une maison de santé. Mais la mère s'y refuse catégoriquement.
Alors, voilà, là on a tous les éléments sur lesquels d'ailleurs qui vont être exposés au cours des procès. Donc, Madame Monnier est incarcérée, son fils également. Évidemment, il y a des attroupements, il y a des badauds, il y a des cris, il y a des hurlements. Quand on découvre tout ça dans la presse, la photo que vous publiez dans votre livre est extrêmement, terrible, quoi, à vivre. Et donc, tout le monde est effectivement indigné. Madame Monnier, on peut le dire, va mourir en prison.
Oui,
elle sera pas jugée puisqu'elle sera morte avant. Alors on fait maintenant une pause et on va aller un peu plus loin dans la découverte de Blanche Monnier, qui est elle, quelle a été son enfance, comment a commencé cette maladie ou ces maladies qui vont s'enchaîner. Et vous faites remarquer dans votre livre que il y a eu des paliers. Des paliers qui sont à comparer avec les moments de la vie de cette femme, et c'est allé de pire en pire. À tout de suite.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Jean-Marie Augustin, l'histoire véridique de la séquestrée de Poitiers. C'est un livre qui est paru pour le centenaire de l'affaire de la séquestrée de Poitiers aux éditions Fayard. C'est un livre, je vais faire rougir l'auteur deux secondes, il est à côté de moi. Un livre remarquable parce que il se laisse pas embarquer dans la passion, bien sûr, est nécessaire aussi. Et puis, elle est justifiée. L'indignation qu'a produit cette affaire est parfaitement justifiée. Mais voilà, quand on va au fond des choses, on se rend compte que c'était moins simple. Cette jeune femme n'a pas été un jour enfermée dans une chambre par une mère terrible, et elle n'est pas devenue folle, pour répondre à une des questions de notre éditrice de tout à l'heure, Dominique, elle n'est pas devenue folle à cause de cette réclusion. Bien sûr, les volets étaient fermés, vous l'avez dit, c'était même cadenassé, on a trouvé des cadenas rouillés, donc parce que c'était cadenassé depuis des dizaines et des dizaines d'années.
Elle est exhibitionniste. Voilà.
Alors, le fils Marcel Monnier, son frère, dira, c'est pour éviter qu'elle se jette par la fenêtre. En fait, c'était pour ne pas dire que, pour éviter qu'elle se montre nue. Bon, parce qu'elle avait un comportement de malade mentale, parce qu'elle était une malade mentale.
Oui.
Alors, maintenant, vous avez vraiment creusé le dossier. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'enfance de... D'abord, les parents, c'est des parents, de petite bourgeoisie, en
voilà,
fait.
Voilà, hein, exactement. Oui. C'est la petite bourgeoisie. La mère était la fille d'un agent de change, mais riche tout de même.
Oui.
Riche quand même.
Oui. Et moche, et moche, vous
et
dites.
Riche et moche. Oui.
Alors, oui, mais si, parce que, comme on disait à l'époque, elle était belle vue de dot.
Oui, alors, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et elle a épousé quelqu'un qui a été d'abord un professeur de lycée et qui est devenu ensuite un universitaire et même doyen.
Voilà.
Qui avait quand même une belle carrière.
Voilà, oui. Mais elle a tout de suite porté la culotte.
Ah, tout à fait.
Dans le couple.
Tout à fait, oui, voilà. C'est elle qui avait l'argent et c'est elle qui avait l'autorité, voilà, aussi bien sur son mari que sur ses enfants.
Voilà, et elle s'est même révélée comme une sorte de tyran domestique.
Tout à fait, c'est un tyran domestique. Oui, elle s'est comportée de manière castratrice. Vis-à-vis de Blanche, notamment. Plus, d'ailleurs, vis-à-vis de sa fille que vis-à-vis, quand même, de son fils.
Parce qu'ils sont nés à un an d'intervalle.
Un an d'intervalle,
Marcel et Blanche. Comment se passe la jeunesse? Parce que au début, c'est une petite fille un peu rebelle, difficile,
rien,
comme tous les enfants.
Rien d'extraordinaire. Elle aime beaucoup la campagne. Elle aime les drouillères aussi.
C'est un peu un garçon manqué.
C'est un garçon manqué.
Elle aime quoi, vous dites?
Les drouillères. Les drouillères en patois sont les filles. En patois poitevin.
D'accord.
Donc, elle a une horreur des hommes. Mm-hmm. Ce qui est vrai aussi, dès qu'un homme s'approche particulièrement, elle est sur la défensive, elle se recroqueville. Il y a cet aspect. Ouais. Et puis, le début, c'est l'anorexie. Elle refuse de s'alimenter. C'est une réclusion volontaire.
Oui. Alors, pardonnez-moi, vous expliquez, parce que c'est tout frais, parce que j'ai relu le livre hier soir. Vous expliquez que quand elle est adolescente, on va dire, dès qu'il y a une friction, et il y a beaucoup de friction avec sa mère, elle part dans sa chambre
elle
ne vient pas manger.
Voilà.
Et c'est un peu une défense, quoi.
Oui, c'est une défense.
Sanction.
Et elle a des crises de mysticisme. Avec en même temps des moments de grande perversité. Vous évoquiez les inscriptions sur les murs.
Oui.
Il y a à la fois des cœurs, des croix, mais aussi des inscriptions ordurières, ou des appels à la liberté. Oui. Alors que, je vous dis, elle n'est pas séquestrée.
Oui, il y a ces inscriptions ont quand même joué un rôle pendant le procès.
Tout à fait. Elles ont fait fantasmer Gide aussi. Hein.
Oui, voilà. Bon, non, mais elle dit qu'elle honte de n'avoir comme avenir que ces quatre murs et de savoir qu'on va mourir ici. Oui. On se dit, mais
le grand fond Malampia. Alors, il y a aussi cet attrait à la fois pour ce qu'elle appelle sa chère petite grotte. Ouais. Elle s'y sent prisonnière.
Sa petite grotte, c'est son lit, c'est ce grabat.
C'est sa saleté, en gros. Hein, c'est ça. Hein. Alors, il y a peut-être aussi des analogies avec la grotte de Lourdes, parce qu'on est en pleine époque de Lourdes, et il y a une chapelle dans sa maison de campagne à Migné, où il y a effectivement la représentation d'une grotte, comme ça existait dans beaucoup de familles bourgeoises.
Mais alors, je reprends le chemin de cette malheureuse jeune fille, puis jeune femme. Il y a une domestique qui s'occupe d'elle. Oui. Et qui va temporiser, on va dire, l'évolution de sa maladie, quoi.
Exactement. Hein, quelqu'un qui est attaché à la famille et qui est attaché à cette fille qui s'en occupe,
qui est un peu une mère de substitution.
Voilà, c'est une mère de substitution. Et ça se dégrade par palier à la mort du père, qu'elle aimait beaucoup, et le père aimait sa fille. Ouais. À la mort de la veuve Fazie, donc cette bonne gouvernante en quelque sorte, qui s'en est bien occupée en 1896, et il y aura les cinq dernières années où là, véritablement, elle est dans le dénuement et la détresse et la folie également.
Sous le regard indifférent de sa mère, quand même, quoi.
Complètement indifférent.
C'est terrible.
Sous le regard indifférent aussi, on n'en a pas beaucoup parlé au procès du médecin de famille.
Oui.
Qui vient visiter la mère toutes les semaines, mais qui ne va jamais dans la chambre.
C'est-à-dire, il y va au début, et puis il y va de moins en moins.
Voilà, exactement.
Et c'est tout le monde sait qu'elle est là.
Et c'est un professeur à l'école de médecine, hein. Bon, oui, évidemment, puisqu'ils sont la cliente et la femme d'un prof de lettres, c'est donc un collègue en quelque sorte. Ouais. Hein, et il ne s'en occupe pas. Ouais. Donc elle est vraiment laissée seule, mais elle se complaît dans cette solitude.
Ouais. Alors, il y a une chose qui est très contradictoire aussi. Vous avez parlé de l'anorexie. Bon, c'est comme ça. À l'époque, on a parlé d'anorexie hystérique. Hein,
oui, c'est ça.
Mais en même temps, la mère, alors cette mère terrible, odieuse, elle va lui faire préparer des petits plats par les meilleurs traiteurs de la ville, qu'on lui propose, et alors que Blanche refuse.
Non, Blanche, ça dépend. Je crois qu'il devait y avoir des conflits, permanents. Alors, elle aime bien les huîtres, par exemple. Et on trouvera énormément de coquilles d'huîtres.
De coquilles d'huîtres dans son grabat.
Sur le grabat. Elle aime bien les huîtres, sa mère lui en achète. Mais au fond, je crois que elle les reçoit. Mais elle mange si elle veut, et elle aime bien aussi faire des réserves sous le grabat. Ça attire les rats, ça attire toute la vermine dont je parlais tout à l'heure. Mais il y a une sorte de situation très très bizarre. Je relisais récemment la vie de Gide. C'est un peu ce qui se passe avec sa mère aussi, hein. Il y a des moments, la mère s'en occupe, la mère n'a jamais abandonné son fils, mais en même temps il y a un conflit permanent entre eux.
C'est pour ça que vous dites que quand Gide a eu l'intention de faire cette collection qu'il voulait appeler d'ailleurs Ne jugez pas, le titre, il avait choisi cette affaire de Saint-Estré de Poitiers comme première histoire, parce que il s'y projetait.
Dire qu'il est Blanche-Monnier, mais...
Il s'y projetait bien.
Mais il y a quelque chose, c'est vrai.
Alors, on va faire une pause, et puis on va parler du procès, parce que ce qu'on a dit là, là je reviens à 1901, ça se passe dans une ambiance terrible, on veut lyncher ces gens, les policiers doivent les protéger, et puis au cours du procès, ça va être aussi une sorte de jeu de chat et de la souris, avec les gens qui viennent avec des panneaux, avec des insultes à mort, etc. On va parler de ce premier procès, en correctionnel, qui a commencé sans Louise, puisqu'elle était décédée en prison. Et à l'issue du premier procès, Marcel va être condamné.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et nous revenons sur ce dossier terrible de celle qu'on a appelée la séquestrée de Poitiers, dont Jean-Marie Augustin a écrit et a mis son attention dans le titre. l'histoire véridique dans ce livre passionnant qui est paru chez Fayard. Alors, le procès s'ouvre dans cette atmosphère de polémique terrible. Mmh. L'accusation est, comment dire, sans aucun démunie. Égard.
Oui, mais elle est quand démunie, même un peu démunie, quand même.
Alors, racontez, comment,
oui. D'abord, ça se passe très vite, parce que ouais. le procès a lieu à l'époque, ça se passe, l'instruction est rapide, hein. Ouais. Ça se passe au mois d'octobre, hein.
Ouais.
Donc c'est rapide. La chambre d'accusation ne retient pas la séquestration, mais.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de, on va pas aux assises.
Ah, bah, évidemment.
C'est ça, hein.
La séquestration
c'est
un crime.
D'accord.
Donc, on ne va pas aux assises, d'accord. Donc on renvoie en correctionnel.
Donc ça, c'est un acquis très clair de l'instruction.
Ah, tout à fait,
d'accord.
Oui. D'accord. Et, elle renvoie en correctionnel. Le frère est accusé de complicité, de voie de fait et violence commise donc sur une personne démunie. Et donc il est renvoyé en correctionnel dans une situation survoltée, comme vous disiez, avec des badauds, avec des insultes, comme malheureusement ça se passe trop souvent dans les procès à caractère un peu sensationnel. Et à l'issue, si vous voulez, on peut parler du déroulement du procès.
Oui, mais comment ça se passe? Parce que moi, je voudrais qu'on parle de l'attitude de Marcel Monnier, parce que on a dit très peu de choses là pour l'instant. Sauf que le matin où le commissaire débarque chez lui, il dit oh, c'est pas moi, c'est ma mère. Bon, il va quand même et il va essayer d'aller demander à quelqu'un de témoigner dans son sens.
Oui.
Et quand la personne finalement refuse, il va dire je suis perdu. Donc il est parfaitement conscient.
Il est conscient, oui.
Qui risque gros, quand même.
Là aussi, la presse, Gide continue, on fait un niais, un pauvre type, c'est pas vrai, il est quand même docteur en droit, il a écrit une thèse sur la complicité, du reste, c'est drôle. Hein. Donc, il a été sous-préfet, c'est quand même pas... quelqu'un,
ce même. Qui choque encore plus les gens.
Oui, certainement, mais on ne peut pas dire que c'est un imbécile, comme on va parfois le présenter. Non. L'avocat quand même en profite un petit peu. Il met l'accent sur la myopie, sur le manque d'odorat, sur l'indépendance aussi.
Oui.
Hein? Sur l'indépendance, mais il parle aussi
sur l'indépendance ou la dépendance à sa mère.
Dépendance. Oui, mais le fait qu'il habite une maison séparée.
Voilà. C'est ça.
Mais ce que il va dire aussi que il a essayé de faire pression sur la mère pour que sa sœur soit mise dans une maison de santé. Ce qui montre bien que malgré tout, il avait connaissance de la gravité.
Mais voilà, exactement.
Voilà. Donc c'est ça finalement.
Il dit hey, ma mère a refusé. Ben donc.
Oui.
Voilà,
donc je suis pas responsable. Mais non.
Je suis pas responsable.
Il fait donc quand même. Théoriquement, il aurait dû. C'est lui qui aurait dû saisir la justice en quelque sorte à ce moment-là.
Bien sûr. Bon. Mais qu'on dit, on fait citer des témoins dans un procès.
Les bonnes. Notamment.
Alors les bonnes. Bon, vous faites
les
un
bonnes.
Chapitre qui est
Ah oui, il y a véritablement.
Alors, peut-être à cause de la pièce de Chenet ou les sœurs Papin, mais bon.
C'est vrai. Bon, c'est le rôle.
On y pense,
le rôle des domestiques dans les grandes maisons, qui sont mal payés, maltraités aussi, qui ont tout de même un petit pouvoir, faut quand même pas l'oublier aussi, qui ont un certain pouvoir, parce que c'est elles en réalité qui tiennent la nourriture, qui tiennent tout dans la maison. Mais et puis elles se trouvent aussi confrontées à une situation particulière, c'est celle de cette pauvre fille dont elles doivent s'occuper et dont elles ne s'occupent plus. À
est-ce moment. Qu'elles ont pu expliquer pourquoi elles n'avaient pas alerté pour pas perdre leur place?
Alors elles craignaient aussi de perdre leur place. Il y a véritablement une influence à l'époque des patrons qui ont presque un droit sur leur domestique, un véritable droit et une autorité, plus qu'une autorité de chef d'entreprise, on va dire, ou de patron. Là, c'est une autorité domestique. Une autorité sur la maison et qui peut avoir des énormes conséquences.
Terrible, voilà. Alors, à ce point-là, il faut peut-être juste reparler deux secondes de la lettre anonyme.
Oui.
Parce que souvent, les domestiques vivent également là. Et en dehors de leurs heures de service qui sont très longues, elles reçoivent leurs petits amis, par exemple.
Reçoivent.
Et notamment, il y en a de l'une d'entre elles.
Il y en a une qui reçoit
un militaire.
Militaire. Je vous rappelle que Poitiers est une ville de garnison aussi. Hein. Donc, elle reçoit un militaire et il est fort probable que l'auteur de la lettre anonyme, moi je ne pense pas que c'était ce militaire, il a dû en parler
à son supérieur,
à un officier qui lui a dénoncé l'affaire auprès du procureur de la
République. Il était dans la maison, là, on est au deuxième étage. visage, il a senti les odeurs, il a peut-être vu cette malheureuse.
Je pense que c'est comme ça. Oui. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Et à partir de là, donc les bonnes sont aux premières loges. C'est elles qu'on va à laquelle on va demander de témoigner. Mais malgré tout, un témoignage aussi ancillaire est considéré un peu de manière un peu suspect. Néanmoins. Le fait, l'aspect politique, le président est obligé de condamner, et il est condamné à 15 mois de prison.
Voilà.
Marcel est condamné à 15 mois de prison.
Mais il y a appel.
Il y a appel, rapide aussi.
Une chose que je ne vous ai pas demandé, est-ce qu'au cours de ce premier procès, je ne sais pas s'il n'y a pas de psychiatre en tant que tel, expert auprès des tribunaux.
Seuls les médecins, mais simplement, ils sont...
Mais on s'intéresse à la personnalité de Blanche.
On s'intéresse à la personne, pas de celle de Marcel, évidemment, mais on s'intéresse tout de même à la personnalité de Blanche. Ouais. Mais on n'en dit pas tant que ça, parce que effectivement, là encore, on est dans une époque où tout cela est gênant finalement. Mmh. C'est très très gênant. On est, je vous rappelle, dans une famille de notables.
Oui, voilà. Bien sûr. Alors, on va faire une dernière pause dans l'émission. On va parler du procès en appel parce que là, coup de théâtre, Marcel Meunier est acquitté. Et ça relance évidemment l'indignation générale. À tout de suite.
Et l'heure du crime sur RTL.
Et c'est la dernière partie de notre émission consacrée à l'affaire de la séquestrée de Poitiers avec Jean-Marie Augustin, professeur du droit et d'histoire du droit, qui a consacré un livre absolument passionnant à cette affaire, en fouillant vraiment toutes les pièces du dossier et en reconstituant finalement la véritable affaire, c'est-à-dire une jeune fille qui est atteinte d'une maladie psychique, une maladie qui évolue au fil des années, une jeune femme qui se dégrade. Des problèmes familiaux, un tyran domestique, enfin bon, tous les ingrédients finalement du drame qu'on va constater évidemment malheureusement lorsque Blanche aura 52 ans quand on la découvre gisant sur cette paillasse au deuxième étage d'un hôtel bourgeois de la ville de Poitiers. On a parlé il y a un tout petit instant, Jean-Marie Augustin, du premier procès, donc 18 mois, je ne sais plus de...
15 ans, 15 mois, pardon.
Non, 15 mois. 15 mois.
Excusez-moi. Oui.
15 mois de prison. Et le mois d'après, c'est l'appel. Alors, je lis un des titres de la presse de l'époque. On avait dressé l'échafaud. C'est en définitive un acquittement que prononce la justice. Voilà. Bon. Et quand je disais que ça relançait l'indignation, c'est peut-être pas l'indignation populaire, mais il y a une bataille de presse avec la presse radicale socialiste, la presse antisémite, anti-franc-maçonne, et on essaye de... Alors pourquoi tout se mélange comme ça autour du personnage de Marcel Meunier, qui est quand même assez falot, quoi?
Eh bien, parce que il y a une véritable bataille politique, on dit même il y a les meuniéristes et les anti-meuniéristes. Voilà. N'oubliez pas que c'est 3 ans après l'affaire Dreyfus. Ouais. Et c'est l'inverse, hein.
Bah oui, les
moniéristes sont plutôt à droite et les anti-moniéristes à gauche. Mais n'oubliez pas aussi il y a que les élections législatives en 1902. D'accord. Donc on est dans une période politique
et de combat politique.
On veut faire de Marcel Meunier la gauche. Faire de Marcel Meunier l'archétype. Le sous-préfet de l'ordre moral. Ouais. On veut l'en faire un clérical. Il fait partie de la société de Saint-Vincent de Paul. C'est au fond le symbole même du bloc réactionnaire.
Alors comment se fait-il que les juges du deuxième procès prennent cette décision d'acquittement? Les premiers ont peut-être condamné sous la pression de l'opinion.
Exactement.
Mais là, la pression de l'opinion, elle existe toujours.
Il n'y a plus de passion. Oui, mais il n'y a plus. À la cour d'appel, il n'y a plus de passion. D'autant que là, véritablement, on va appliquer le droit. C'est-à-dire, je répète, on parle de violence et voie de fait, et c'est ce que va dire la cour. Il n'y a pas de délit de violence sans violence. C'est-à-dire qu'une abstention, le fait de ne rien faire,
n'est pas condamnable
à l'époque. Ouais. Et n'oubliez pas qu'on ne raisonne pas par analogie au pénal. Il faut qu'il y ait une loi, et la loi, c'est le code pénal de 1810, et par conséquent, l'application, c'est l'aspect volontaire. Là, il n'y a pas eu de volonté.
Alors, une question, professeur de droit que vous êtes, si l'affaire se déroulait aujourd'hui...
Ah, ce serait tout à fait différent.
Qu'est-ce qui risquerait...
Je ne peux pas vous dire exactement, parce qu'il y a des circonstances atténuantes
que vous devez connaître par cœur.
Il y a des circonstances atténuantes.
Non, ces personnes en danger,
je sais plus, je ne peux plus vous dire. Je ne peux plus vous dire exactement. Moi, je suis un historien du droit.
Ça ne se compte pas en mois, ça se compte en années.
Ça se compte maintenant en années, oui. Mais il y avait des circonstances. Et là, il y a aussi les questions de circonstances, je ne peux pas le dire. D'autant que vous savez très bien ce qu'il y a dans la loi et ce qui est appliqué dans les procès, il y a une très grande différence. Donc,
Alors,
on aurait poursuivi certainement aujourd'hui pour non assistance, certainement.
Voilà. Alors donc là, il est acquitté, il va tenter de se faire oublier.
Il se fait oublier. Ouais. Il vend tout ce qu'il avait pu obtenir de sa mère, parce que sa mère l'a pas complètement déshérité, mais ne lui a laissé que la quotité disponible.
Alors justement, il y a un testament. Oui, on a dit qu'elle était morte pendant son incarcération.
Oui, il y a eu un testament.
Qu'est-ce que dit le testament?
Et le testament avantage la fille.
Blanche.
Pour la maintenir, justement, parce qu'elle a quand même des sentiments. Il faut qu'elle a des devoirs, surtout, vis-à-vis de sa fille. Donc, il faut qu'après sa mort, elle puisse continuer à vivre chez elle de manière correcte, du moins ce qu'elle pense correcte. Par conséquent, elle prend des dispositions envers sa fille au détriment de son fils.
D'accord.
Et elle fait des legs aussi importants à la veuve Fazi et à sa famille, ça aussi. Une sorte de remerciement des domestiques. Le frère va tout vendre sur Poitiers, sauf la maison de Migné. Et il va se retirer à Cibourg, sur la côte basque. Blanche.
Il va faire de la peinture.
Blanche est soignée à l'Hôtel Dieu pendant un an.
Oui.
Elle n'a jamais recouvré la raison.
Jamais.
Elle avait comme une petite fille, elle part toujours de sa chère grotte, son cher machin, son cher truc.
Ce qui est terrible quand même, parce qu'elle est anorexique, mais elle mange aussi par période.
Elle a pris 10 kilos.
Et quand on lui apprend la mort de sa mère, c'est au moment du repas.
Oui.
Et elle dit, sa seule réaction, c'est je vais me régaler.
Oui, voilà.
Alors,
voilà.
Cela dit, docteur Freud est peut-être en train de passer dans ce studio.
Exactement. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et elle est soignée, ensuite, elle est envoyée dans un hôpital psychiatrique. Au fond, c'est là où elle aurait dû aller le plus tôt possible.
À Blois.
À Blois, l'hôpital de Seigne. À Blois, elle est morte en 1913, en octobre, si je me souviens bien. Ouais. Elle est enterrée au cimetière de Blois. Son frère est mort, je crois, au mois de juin 1913. Il est enterré à Migné, lui. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai fait cette enquête sur l'affaire, j'ai contacté la famille et ils m'ont dit, on savait bien qu'il y avait quelque chose dans notre famille, mais on ne savait pas quoi. Et vous nous le dites maintenant. Donc, on est là dans le secret de famille. Voilà. Ces questions. On est dans une pensée famille où rien ne doit transpirer.
Alors, cela dit, dans son livre, Gide avait changé les noms.
Ah oui.
Donc,
Blanche était passée Mélanie.
Mélanie.
Voilà. La noire.
Voilà. Et donc, le nom d'ailleurs, c'est plus.
Bastien.
Voilà. C'est ça. Et donc, effectivement, pour les gens de la famille, si personne n'a rien dit, et surtout s'ils sont grandis.
Ils sont partis, oui.
En dehors de Poitiers,
ils ont quitté Poitiers,
voilà. À Poitiers, on peut dire que c'est un. Vous qui êtes de la région, et même.
De la ville,
dire qui. Oui, de la ville, de la région, mais vous revendiquez votre appartenance régionale.
Tout à fait.
Ça a marqué profondément le.
Oui, c'est une affaire qui est connue. La maison a beaucoup changé, mais la fenêtre de la chambre existe toujours. C'est au-dessus d'un restaurant, si je me souviens bien. Ouais.
Et les gens qui y habitent savent ce qui s'y est passé.
Ah, je connais quelqu'un qui y a habité.
Ouais. Bon, voilà.
Et c'est un prof d'histoire en plus. Il habitait juste à côté. Il le savait, mais. Une maison comme une autre, quoi.
Et dans tous les. Alors, et vous vouliez vous attacher à remettre les
ah oui,
à l'heure, quoi.
Tout à fait.
C'est ça.
Tout à fait. Je crois que je voulais. Moi, je fais une analyse aussi bien au point de vue juridique qu'au point de vue historique, avec un certain attrait pour cette pauvre fille, même pour toute la famille. Moi, j'essaie de comprendre. Je suis comme Gide.
Oui.
Jugez pas.
Oui, ça voilà. Vous ne jugez pas. Ça,
je ne juge pas.
Malgré votre métier, c'est admirable.
Tant mieux du reste. Mais je crois que c'était ramener cette affaire à ses dimensions et à ses dimensions familiales. Voilà.
Je vous remercie beaucoup, Jean-Marie Augustin.
C'est moi
merci. Je crois que ceux qui avaient envie d'en savoir plus, vraiment, vraiment là sont servis aujourd'hui. Et puis je rappelle ce livre, donc l'histoire véridique de la séquestrée de Poitiers, qui est paru chez Fayard. L'émission est maintenant terminée. N'oubliez pas d'ailleurs que si vous voulez, si vous l'avez prise en cours de route et que vous voulez l'entendre au complet, c'est tout à fait possible. Vous allez encore sur rtl.fr et là vous pouvez réécouter l'émission dans la foulée ou même l'enregistrer, c'est-à-dire, comme on dit en bon français, la podcaster.